C'était à dire. Attends, où est-ce qu'on démarre? Diaporama, il est où le diaporama là-dessus? Diaporama. Ok. Donc, non, en fait, c'est très bien parce que tu poses effectivement toutes les questions que l'on se pose et les questions que se pose le réseau. Moi, je vais plutôt me centrer sur le contexte dans lequel se produit ce projet de SGBM. Et comment il s'inscrit dans une stratégie avec d'autres projets. Et on retrouvera un certain nombre d'éléments et de mots-clés que tu as toi-même signalé. Alors, tout d'abord, j'enfonce des portes ouvertes. On est dans un contexte en forte évolution, avec une prédominance progressive des ressources en ligne, mais la nécessité de continuer de gérer le papier. Et là, quand on dit économie d'échelle, j'aurais tendance à répondre tout de suite. Nous faisons déjà des économies d'échelle, car avec les mêmes équipes, nous avons à gérer et le papier qui n'a pas beaucoup diminué, et l'électronique, et avec une quantité d'électronique dans laquelle la part relative du papier, tout en restant constante, tend à diminuer en part relative. Donc les économies d'échelle, elles sont déjà en cours. La baisse y a contribué, bien entendu, chaque établissement aussi. Un besoin de signalement et de gestion des ressources en ligne, ça c'est un véritable besoin qui est émergé. Donc au-delà des possibilités de mutualiser des outils pour la gestion des transactions, la gestion de tout ce que fait un SIGB traditionnel, c'est déjà en soi une utilité, indubitablement. La capacité des machines, la capacité des organisations, le réseau font que il n'est pas nécessaire d'avoir un SIGB dans chaque établissement. Donc ça, c'est, on pourrait le dire, on peut faire des économies d'échelle, on peut améliorer la gestion, on peut être plus professionnel en partageant ces outils. Dans un contexte de mutation organisationnelle, de surcroît, quand les communautés d'universités se construisent, quand il y a des réseaux régionaux qui se mettent en place, évidemment, quand il y a plusieurs outils, on a tendance à dire, bon, ben, on va prendre un même outil. Ce serait déjà une condition suffisante pour décider de mutualiser. Ce n'est pas une condition, ce n'est pas la seule condition. Les autres conditions, c'est justement les besoins que l'on a de travailler de façon intégrée, et on se pose la question jusqu'à quel est le degré d'intégration de la gestion des stocks avec la gestion des flux et quelles sont les transformations, les mutations technologiques, les mutations, tu l'as souligné aussi, dans l'organisation et dans les nécessaires évolutions de nos propres organisations, et la transformation de nos métiers liés à la gestion des ressources électroniques, mais liés aussi au déplacement d'un certain nombre de fonctions, c'est-à-dire le passage, pour caricaturer, du catalogueur au catalieur, c'est-à-dire celui qui va travailler sur de nouveaux formats dans lesquels il va rattacher les informations à des listes d'autorités. C'est d'autres schémas de construction des données qui ne sont pas, en termes d'outils, ne sont pas complètement en place aujourd'hui, mais aussi de l'acquéreur de métadonnées, dans la mesure où, de plus en plus, les données sont produites au niveau de l'éditeur et on doit les récupérer. Et enfin, un troisième phénomène, on l'a vu dans le comité bibliographique stratégique, dont je vous invite à lire le rapport établi par Raymond Birard et Gilda Silien, donc les deux agences bibliographiques, sur le fait que des besoins de recherche au niveau de l'article pour les périodiques et même parfois plus finement que l'article lui-même, d'une part, d'autre part au niveau des chapitres des livres et non pas des titres des livres. Donc les besoins des usagers font que le besoin de signalement des ressources ne se présente pas comme il pouvait se présenter à une époque héritée de celle où nous devions concentrer dans une fiche de 15 cm sur 10 avec un trou en bas pour pouvoir passer la tringle, un maximum d'informations structurées pour pouvoir signaler des ressources papier. Donc on est dans ces héritages toujours entre différentes pratiques, et c'est normal. les choses se sont, nous sommes sur des paquebots, des gigantesques porte-conteneurs avec des moteurs de solets, et quand on change de cap, ce sont des choses qui se font dans le temps, et on n'est pas un hors-bord, on est de gros navires. Accompagner les établissements dans les profondes mutations en cours, à l'échelle de l'établissement, souvent l'échelle de l'établissement n'est pas la bonne échelle pour répondre à ces besoins. On le verra de plus en plus, il y a un déplacement qui est général à la société de l'information d'une façon générale. Internet, à un moment donné, il y a un nœud de l'ensemble de l'Internet qui se concentre sur un ou deux ou trois endroits dans le monde qui sont totalement cruciaux pour pouvoir faire marcher tout cela ensemble. Et de plus en plus, si la tendance est centrifuge au niveau de l'accès, même si je veux avoir un accès très personnalisé à l'information, paradoxalement, cet accès personnalisé à l'information, je vais l'avoir à travers des systèmes extrêmement centralisés au niveau de la gestion. Donc ça, c'est une tendance générale et il faut voir comment on s'installe dans cette tendance générale. Besoin de réaliser des économies d'échelle, je ne vais pas en reparler, et rassemblement des établissements dans des nouvelles structures, je vous l'ai dit. Il y a aussi le besoin de faire évoluer le socle de la baisse, c'est-à-dire le SUDOC. C'est un outil robuste, c'est un outil sur lequel la baisse a assis sa crédibilité, et je pense que les choses n'étaient pas gagnées au départ, hein, les anciens savent à quel point la baisse a pu être vue avec un œil sceptique au départ et que la baisse a fait ses preuves. Elle utilise un outil qui date d'une vingtaine d'années ou plus et qui est en cours d'obsolescence. C'est naturel, c'est ce qui arrive à tous les systèmes. Je tiens à signaler quand même sa robustesse. Et sa robustesse, c'est aussi l'un des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer et nous ne devons pas lâcher la proie pour l'ombre. La richesse des données, les données qui figurent dans le SUDOC, avec toutes les métadonnées qui figurent dans le SUDOC, sont une sécurité pour les établissements. Souvent, je dis, bon, si on veut voir, mesurer l'utilité de quelque chose, imaginons ce qui se passe si on le supprimait. Et c'est là, bon, si on supprime aujourd'hui le SUDOC, que se passe-t-il dans vos établissements? Et là, on se dit, ah oui, ça sert quand même à quelque chose. Hein. Ça sert même beaucoup à beaucoup de choses. Un contexte d'ouverture aussi, puisque là aussi c'est quand même un point très important. On s'inscrit dans une perspective d'ouverture des données et notre grande révolution, une fois que l'ISSN sera rentré dans la politique, c'est le verrou qui bloque encore, c'est une totale ouverture des données. C'est-à-dire que les données du SUDOC sont récupérables en licence étalable par n'importe quel opérateur qui veut en faire quelque chose, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Il en est de même depuis le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France de novembre dernier, des données de la Bibliothèque nationale et de plus en plus d'établissements. Les métadonnées sont en train de devenir un espace public des données, pas simplement au niveau français, mais au niveau international. Et c'est un espace nécessaire pour l'expression de la vie citoyenne de chacun d'entre nous. Il ne faut pas oublier, bien entendu, et je ne les citerai pas tous, les services associés portés par la baisse et qui devront demeurer, quoi qu'il arrive, que ce soit dans un contexte de SGB mutualisé, que ce soit quel que soit le contexte de mutation, ces services devront continuer d'exister parce que ce sont des services d'intérêt national. Alors, le SUDOC et le SGBM. Il s'agit, puisque nous allons être dans des timings différents, de s'assurer de la compatibilité du SUDOC et du SGBM. On porte le projet, on aide à porter le projet pour cela. On est là aussi pour mutualiser l'expertise, c'est ce que disait Grégory tout à l'heure. Et on est là pour aider, améliorer et accompagner les services pour chacun en termes de formation, en termes d'un certain nombre de développements, en termes de qualité des données, en termes d'économie d'échelle, je vous l'ai dit, et en termes d'accompagnement du changement dans les établissements et, bien entendu, à la baisse, c'est sous-entendu. Donc, c'est pour ça que le projet SGBM, issu d'une demande des établissements, émise au conseil scientifique de la baisse, etc., a dit, bon, c'est un projet phare de la baisse, mais ce n'est pas un projet phare de la baisse au sens strict du terme, c'est un projet phare pour un certain nombre d'établissements avec l'accompagnement de la baisse. Alors, s'il fallait retenir un certain nombre de choses, s'il ne fallait retenir qu'un objet, je dirais l'objet crucial, l'objet fondamental, l'objet incontournable, l'objet totalement fondamental, l'objet qui est l'objet du SIDOC lui-même, ce sont les métadonnées. Les métadonnées sont le socle de tout système. Et la maîtrise que l'on a des métadonnées, au-delà de la question de l'outil, dont parlait aussi Grégory à l'instant, il y a l'outil, il y a les métadonnées. Donc, les outils, on peut en changer, ils évoluent, les métadonnées restent et on doit en garder la maîtrise. Donc, la capacité de dissocier l'outil des métadonnées a été soulignée à diverses reprises dans différentes instances comme l'élément crucial, fondamental du projet SGBM et des projets d'évolution de la baisse. S'il ne fallait retenir qu'un principe, c'est la coopération globale. La coopération se place à différents niveaux, au sein même de l'établissement et au niveau international. S'il ne fallait retenir qu'un objectif, c'est le découplage, je vous l'ai dit, entre les données et les interfaces, les outils, et c'est valable tant pour le papier que pour les ressources électroniques. Et s'il ne fallait retenir qu'une stratégie, on dirait autonomie, possibilité de divorce avec nos prestataires, possibilité de migrer, indépendance, ouverture. Alors évidemment, je caricature, on est dans un système d'interdépendance. On est dans un système dans lequel les séparations d'avec un prestataire sont compliquées, demandent du temps. Les unions avec un prestataire sont compliquées et demandent du temps. Mais nous devons préserver les possibilités de chacun des établissements et au niveau de la communauté, on va dire, de l'enseignement supérieur, de la recherche, d'une part, mais on voit que de plus en plus, alors je fais rigoler parce que j'ai parlé de mettre de la porosité dans le Yalta entre l'environnement enseignement supérieur, recherche et l'environnement culture. Mais il s'agit vraiment de ça. Tu en as parlé également. Il n'est plus possible de raisonner dans des sphères aussi étroites. Excusez du peu, si on parle d'une sphère étroite pour parler de l'ensemble de l'enseignement supérieur de la recherche française, ce n'est pas une sphère si étroite que ça, mais malgré tout, elle apparaît comme étroite dans un certain nombre de projets, dans un certain nombre de perspectives, et on le voit même dans le cadre aussi dans lequel ça s'inscrit, de la bibliothèque scientifique numérique, dans lequel des acteurs, au-delà de la sphère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont véritablement des rôles importants à jouer. Alors, dans quel contexte s'inscrit le projet SGBM en termes de projet de la baisse et pas simplement de la baisse? Alors, il y a le hub de métadonnées. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de retraiter les données des éditeurs pour les placer dans un espace public de données, pour que les données soient ouvertes, pour que les données soient fiables. On va revenir sur cette question-là. L'autre élément, je vous l'ai dit, l'ouverture du SIDOC en licence étalable. Et à quoi sert le hub de métadonnées? Il sert à améliorer le signalement de la documentation électronique. Petite parenthèse, on rediffusera tous les slides sur le site de la DBU, ou de la BES, ou des deux. Hein, donc si vous voulez... Vous pouvez, bien entendu, prenez des notes, il n'y a aucun souci, mais on vous rassure tout de suite sur la diffusion des transparents. Faciliter le travail quotidien des catalogueurs, accompagner la mutation du métier de catalogueur vers celui d'acquéreur et de gestionnaire, je l'ai déjà dit, je le répète, renforcer la maîtrise des données, parce que les données, que ce soit de nos propres données ou des données de provenance hétérogène. Quand je parle de données de provenance hétérogène, je parle aussi bien de données de provenance hétérogène au sein même de nos établissements. On songera par exemple, il y a les thèses, hein, c'est bien connu, mais ça peut être aussi les travaux, les mémoires, les publications de littérature grise à l'intérieur des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur. Ce peut être toute une série de documents pédagogiques dans lesquels, qui ne sont pas exclus du champ, bien entendu. Ce peut être des ressources provenant des éditeurs, bien entendu, des différents producteurs et qui sont livrés dans des formats plus ou moins propres, plus ou moins compatibles, ou qui obéissent à des exigences diverses. Un éditeur va avoir pour intérêt d'avoir de produire des métadonnées dans une perspective marketing ou commerciale. C'est normal. C'est le besoin. Ce besoin ne correspond pas forcément au besoin qu'ont les bibliothécaires en termes de réutilisation. Il n'y a pas forcément la perception de ce besoin de la part de l'éditeur. Donc il y a une acculturation réciproque à faire, dans la mesure où on ne peut pas se permettre d'exiger des données, on doit être sur le principe de réalité, récupérer des données aussi propres que possible et les rendre le plus compatibles possible avec les besoins de gestion dans un système documentaire. Coopération internationale pour garantir notre indépendance vis-à-vis des prestataires. Et c'est les mouvements, je vous le disais, de type ouverture des données, ne se situent pas simplement au niveau français, mais à un niveau international. Et ce n'est que dans une coopération internationale qu'on y arrivera. Et le hub de métadonnées ne travaille pas de façon isolée par rapport à d'autres acteurs mondiaux. Alors, hub, pour bien resituer les choses, parce qu'on se dit hub de métadonnées, on imagine peut-être un silo. Pas du tout. Le hub de métadonnées, il y a de l'entrée, il y a de la sortie. C'est un transformateur, c'est un moyeu. En anglais, hub, c'est le moyeu, la roue, l'engrenage, on va dire. C'est une plaque tournante, un pôle d'échange, une plateforme de correspondance, une station maîtresse, un concentrateur. Enfin bon, on peut trouver toute une série de synonymes. Mais voilà pourquoi je mettais ces analogies, pour que l'on comprenne bien ce que c'est que le hub. Le hub, c'est une espèce de moulinette. Donc vous avez toute une série de corpus. Je sais pas si on peut... Oui. Toute une série de corpus ici de métadonnées, qui sont modélisés. Je ne vais pas vous faire une leçon, je ne suis pas bon pour ça. J'en profite pour dire que dans la salle, il y a, même outre les intervenants de l'ABES, d'autres personnes de l'ABES, qui se présenteront tout à l'heure, après les interventions, pour que dans les apartés, on puisse aussi échanger également. Donc il y a une base qui est le hub à proprement parler, où sont traités ces corpus, et ensuite ils sont transformés pour servir différentes applications, le Sudoc, Xtext, les Discovery Tools. On est au service évidemment des bibliothèques, mais aussi on est au service d'un certain nombre d'opérateurs privés. Donc il n'y a pas, quand on dit espace public de données, on n'est pas en train de dire il y a les méchants éditeurs ou les méchants opérateurs privés d'un côté, il y a les gentils et angéliques acteurs publics de l'autre. Non, on est dans une coopération entre les différents acteurs. Il faut vraiment le souligner. Mais pour que cela soit fonctionnel, on a besoin d'espaces publics. Si vous avez des rues privées, si toutes les rues étaient privatisées et que chaque propriétaire de rue décider de faire passer ou pas quelqu'un, ou ne pas le faire passer en fonction de ses propres intérêts par rapport à cette rue, ben, l'espace public n'existerait plus, la ville serait bloquée. On reviendrait au Moyen-Âge. Enfin, c'est le contraire de la société de l'information. Donc, soyons bien conscients de cela. Donc, les métadonnées sont déjà là. Le Sudoc, il faut peut-être le redire, parce que quand on dit hub de métadonnées, on pense nouvelle technologie, etc. Le Sudoc, ça va sans dire, il faut le rappeler, ce sont des métadonnées. Et le Sudoc est un entrepôt de métadonnées, est aussi un hub de métadonnées, puisqu'il fait de la transformation. Il y a le projet Istets. Qu'est-ce qu'on va mettre si je reviens au slide précédent, qu'est-ce qu'on va mettre a priori, en priorité, qu'est-ce que l'on va traiter avec cette moulinette? Donc, les projets Istets, les projets liés aux licences nationales, les projets liés aux groupements de commandes, avec une vérification des données avant acquisition, une exposition des données après acquisition. On ne va pas pouvoir tout faire en même temps. On a une amélioration des données des éditeurs français, qui sont souvent mal couvertes par les Discovery Tools. Donc là, il y a un dialogue à avoir avec les éditeurs pour qu'ils améliorent la fourniture et qu'on améliore le traitement pour offrir des outils quand dans chaque établissement, certaines ressources sont mal signalées ou incomplètement signalées, les intégrer dans les interfaces des établissements et améliorer les données produites par le réseau dans le cadre de nouveaux services. Par exemple, la conservation partagée, c'est-à-dire toute la documentation électronique, l'acquisition en masse de documentation électronique, l'affichage dans Périscope des collections papier permettent d'avoir une mise en perspective des actions de conservation partagée qui ne sont pas dans le cœur du métier de la BES, puisque en plus maintenant le CTLS a une mission là-dessus. Nous pouvons offrir grâce aux métadonnées toute une série de services au service d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit au niveau régional, au niveau national, et les métadonnées sont un des socles, même si à côté de ça, il y a l'ingénierie de gestion des plans de conservation partagée qui sort de notre périmètre. Il y a aussi le projet Bacon, de base de connaissances. Alors, c'est une base de connaissances, c'est pour ça que j'ai mis en haut des silos, mais c'est des silos, non pas de texte intégral, mais des silos de métadonnées, où il s'agit d'agréger... Des titres de ressources électroniques, de périodiques, de livres électroniques auxquels la communauté a besoin dans le cadre d'une université, d'une presse, d'un réseau documentaire, et quel que soit le mode d'acquisition, que ce soit par abonnement, par achat, en open access. Attention, à ce niveau-là, on n'est pas dans les informations concernant au niveau de l'article, on est sur les titres, et au niveau des chapitres des ouvrages. Alors, on a un prototype de base de connaissances avec des bouquets de périodiques, de contenus français. On exige des fournisseurs une qualité des données fournies. On les expose en étalable. On s'inscrit dans une perspective internationale par rapport à cela. Et il y a aussi, alors c'est un projet partiellement ABES, la plateforme eStates qui va être portée par l'INIST. C'est un vaste programme d'acquisition d'archives scientifiques et de services à valeur ajoutée. Pour l'instant, ce qui est acquis en licence nationale est accessible sur le site des éditeurs, mais à terme, il y a la construction pour l'interrogation en texte intégral sur des objets numériques indexés dans leur totalité, la production de synthèses documentaires, la possibilité de faire de la fouille de texte, une représentation et une visualisation des données basées sur les technologies de la cartographie de la connaissance, et c'est un projet recherche-développement. C'est un projet très important qui va avoir une incidence sur la vie de chacune de nos bibliothèques. C'est indubitablement. Alors, il y a une complémentarité entre Hub, Bacon, Bacon, je ne sais pas, base de connaissances, et bien d'autres acteurs. Je les citais pas tous, je les ai cités en partie. Donc, le SGBM, c'est moderniser les interfaces, gérer et signaler la documentation électronique, améliorer la gestion des transactions, ou maintenir et améliorer la gestion des transactions papier. Le Hub, c'est l'amélioration des données en vue de s'en assurer la maîtrise. Et puis, il y a les applications et les services de la BES qui interagissent avec cet ensemble d'éléments. Et que fait la BES là-dedans? Que fera-t-elle par rapport au SGBM? Eh bien, elle-même va probablement migrer vers un nouvel outil. Là, plusieurs scénarios sont possibles. Sera-ce le même outil que l'outil SGBM? C'est possible. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. Va-t-on vers une solution unique ou vers des solutions plurielles? C'est des questions auxquelles on répondra au cours de la journée. Je vous laisse un petit peu de suspense. Et il faut conserver les outils collectifs, même si on doit les faire évoluer et coopérer avec des réseaux multiples. Alors, quel est ce nouveau rôle pour la BES? Tu l'as signalé, Grégory. Il s'inscrit dans la continuité des missions de la BES, mais on migre vers un principe de co-décision. Une démarche projet, cette démarche projet, dans le cadre du projet SGBM, le marque très clairement. On n'est plus dans un rôle où la décision prédominante était celle de la tutelle, mais là où c'est la volonté des établissements, les groupes pilotes, etc., totalement partie prenante des décisions qui vont être prises. D'une certaine façon, on pourrait dire, là on a des intérêts convergents pour travailler ensemble sur le projet SGBM, c'est tout à fait naturel. Peut-être qu'il y aura d'autres projets convergents pour travailler sur d'autres sujets et dans lesquels on considère que la BES est un partenaire naturel, un partenaire nécessaire. S'il l'est, eh bien, la BES a son rôle. En tant qu'agence de mutualisation, qui n'est pas le cas, enfin qui est le cas de fait, mais qui n'est pas le cas de juré, mais qui va impliquer et la BES en tant qu'opérateur d'État. Et l'évolution de ce rôle d'agence de mutualisation dépendra de la volonté de chacun de faire jouer ou non à la baisse ce rôle-là, et peut-être à la baisse de changer éventuellement même sa raison sociale, son statut, puisque ça veut dire aussi en termes de financement, soyons clairs, que des projets comme le projet SGBM est financé essentiellement par les établissements. La baisse y participe dans ce travail d'impulsion, mais en vitesse de croisière, on va devoir avoir des solutions qui sont économiquement viables pour la baisse et pour les établissements. Alors, se posent de nombreuses questions. Maintien du paradigme catalogue collectif est-il égal à catalogage partagé, ce qui était le paradigme fondateur, et on en reparlera de la baisse il y a 20 ans. Le calendrier, les coûts du modèle économique, les questions que la DBU nous a envoyées et que l'assistante se posera. Cette journée répondra-t-elle à vos questions? Pour beaucoup, oui, espérons-le, sinon ce serait dommage. Les choix ne sont pas tous faits, des incertitudes demeureront, et c'est normal. C'est la rançon du changement, des questions, l'avenir, c'est quelque chose que nous allons construire ensemble.
Merci.
Merci beaucoup, Jérôme. On va pouvoir passer à une séance de questions.
Alors, c'est moi qui ai le micro. Ah, c'est pas du bon côté.
N'hésitez pas à vous présenter, citer le nom de votre établissement avant d'intervenir.
Oui, bonjour, Christian Renette du CEA. Moi, je vous ai juste une petite explication. C'est quoi la différence fondamentale entre le hub et Bacon? C'est le texte intégral, c'est quoi?
La différence fondamentale entre le hub et Bacon. Le hub, c'est une moulinette pour traiter des informations. Bacon est plutôt déjà une forme d'entrepôt de...
Parce que le hub, c'est un entrepôt de données, globalement.
Le hub ne stocke pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui va vous permettre ensuite de stocker.
Non, mais chez vous, les données seront stockées.
Chez nous, les données du SIDOC sont stockées, un certain nombre de données sont stockées. Mais les, comment dire, les deux éléments ne sont pas totalement dissociables. Mais le métier hub, c'est un métier une moulinette à données qui ensuite est envoyée dans différents éléments. Par exemple, le travail de Bacon, ça va être un travail ensuite par rapport à ces moulinettes de stocker sur la base d'un prototype, en travaillant avec d'autres bases de connaissances qui vont aussi stocker d'autres informations au niveau international, pour les fournir à un certain nombre d'acteurs dans la perspective de leur intégration dans leur propre environnement.
Merci. Une autre question? Je vais demander un petit peu d'aide.
Bonjour, Alexandre Faure, Paris Dauphine. Donc une question sur Bacon, même deux questions. La première, est-ce que là aussi les données seront ouvertes et pourront être moissonnées par des éditeurs pour des résolveurs de liens commerciaux? La seconde, est-ce que dans les projets de la BES, il y a aussi le projet d'un résolveur de liens national? Est-ce que qui pourrait s'appuyer sur cette base?
Alors, sur la première question, oui, très clairement, l'idée de Bacon, l'idée, c'est d'avoir des bases de connaissances ouvertes et réutilisables par tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, très clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. La deuxième question... Oui, peut-être, t'es plus qualifié que moi pour répondre.
Alors, effectivement... Bacon, c'est d'abord une base de connaissances. Est-ce que ça sera aussi un résolveur de liens? Je crois que le groupe, on est sur un prototype pour le moment, donc c'est en cours de travail. Ce qu'on a envisagé, c'est que ça soit éventuellement un résolveur de liens pour ceux qui n'en ont pas localement. Mais, pardon. On m'entend pas là? Vous m'entendez pas? Si? Voilà. Je sais pas, est-ce que ça répond à votre question?
Oui, voilà. Oui, n'oublions pas, on est vraiment dans la phase prototype hein, en ce qui concerne Bacon. La décision de la suite n'est pas... Enfin, il y a un rapport qui va sortir très prochainement, un rapport donc d'étape de cette phase... de cette phase de construction du prototype, les décisions sur son extension, son évolution ne sont pas prises.
Et vous serez consulté sur le prototype, hein, justement.
Alors, pour enchaîner, j'avais aussi une question par rapport à Bacon et au Hub. Moi, à mon sens, de ce que j'en perçois depuis un an, je trouve que c'est un des piliers de l'avenir du système d'information porté par l'ABES. Bacon est encore au stade expérimental, mais c'est un très bon exemple dans l'organisation du projet de co-développement, comme je parlais tout à l'heure, puisqu'on a des collègues de l'ABES associé à des collègues des établissements. Il y en a un certain nombre d'ailleurs qui participent au groupe projet, je pense à Eva tout là-haut, qui sont membres de ce groupe de travail. Et donc c'est un très bon exemple de co-développement et de nouvelles manières de travailler. Je me posais la question de savoir si pour le hub, dans le cadre du retraitement de métadonnées, c'était une piste qu'on pouvait envisager ou si vous y avez pensé, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a le SUDOC qui est basé sur aussi une participation des établissements, est-ce que sur le retraitement de métadonnées, on pourrait avoir un hub qui soit au cœur d'un réseau de coopération, de partage, de force de travail également, de retraitement de métadonnées, ou c'est encore trop tôt pour porter ce genre
Alors
de...
J'ai posé à Benjamin exactement cette question hier. Dans le cadre, enfin, quand on était en train de préparer un petit peu les interventions de ce matin, la position de Benjamin est plutôt de dire attention, ce sont des choses qu'il est très, enfin, en termes de gestion, ça exige un gros travail au niveau central. Alors, ce n'est pas le principe, ce serait évidemment un principe de co-alimentation. Il faut qu'on réfléchisse à quelle sera la répartition entre quel est le degré de participation, on va dire, de partagé, d'enrichissement, etc., et quelle est la partie qui sont des moulinettes qui exigent une expertise en centrale. Mmh. Apparemment, c'est assez centripète. Ça m'a un petit peu déçu, oui. Je dois le reconnaître. C'est assez centripète, apparemment, d'un point de vue technique. Ça fait partie des éléments de la réflexion. On est dans des prototypes, mais ce qui semble de se dégager, c'est un petit peu cela. Enfin,
Moi, je peux ajouter deux informations, c'est-à-dire, effectivement, Bacon, c'est pour le moment quelque chose d'assez centralisé, mais ce qui est surtout important de dire, c'est que c'est une co-direction Couperin-Abbesse. C'est bon, hein, y a Thomas Porquet et Benjamin qui pilotent le projet. Donc ça, c'est déjà un élément de coopération. Alors, important. Oui. Et en ce qui concerne le hub de métadonnées, bon, je sais, mais il y a quelqu'un qui participe au hub, Ilham, qui pourra peut-être compléter. Il me semble qu'un de leurs objectifs, c'est que tous les traitements qu'ils sont en train de mettre au point dans cet outil de conversion de données, il y a des questions de catalogage qui se posent, et puis très concrètement, il y a un moment où il faut traiter les choses à la main, et je crois que l'équipe du hub envisageait de faire appel au réseau à un moment donné, mais c'est peut-être un peu tôt maintenant. Je ne sais pas, Ilham, si tu veux compléter.